France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Marc Chagall avait 90 ans quand, en 1977, s'ouvrait au Louvre une exposition de sa production de la décennie 67-77. Si ce n'était pas la première fois que l'on y montrait sa peinture, déjà vue 10 ans plus tôt dans une exposition intitulée « Le message biblique », cette exposition, beaucoup plus importante de 1977, en ouvrant à son œuvre de son vivant les portes du Louvre, était le témoignage d'une reconnaissance que seul avant lui, Georges Braque avait reçue. Nous allons retrouver Marc Chagall au Louvre en 1977, lors de la journée d'inauguration de cette exposition. Fatigué un peu par l'agitation ambiante, honoré peut-être, mais manifestement touché, d'être exposé dans ce musée où, bien des années auparavant, arrivant de Russie, il passait des journées entières à étudier les maîtres, à s'émerveiller de la peinture de Cimabue, à contempler sans fin le Gilles de Watteau qui ne cessa jamais de le fasciner. Les après-midi de France Culture, dont Marc Chagall était l'invité du lundi, le 17 octobre 1977, rendaient compte en direct du vernissage de presse de l'exposition et prenaient la forme d'un hommage au peintre à travers le montage de différentes archives. On pouvait ainsi entendre Chagall en 1970 chez lui à Vence, à l'Opéra en 1964 lors de l'inauguration de son plafond et en 1961 au Musée des Arts Décoratifs de Paris pour l'exposition des vitraux réalisés pour la synagogue de l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Les après-midi de France Culture, l'invité du lundi, Marc Chagall, une émission diffusée la première fois le 17 octobre 1977, dans laquelle on pouvait notamment entendre les critiques Georges Charansol et Jacques Lassaigne, André Malraux et le compositeur Georges Auric.
Après-midi de France Culture, bon après-midi que nous passerons ensemble en compagnie de notre invité du lundi, aujourd'hui le peintre Marc Chagall. Après-midi fabuleux pour bien des raisons. D'abord, la longévité de l'artiste, Marc Chagall, 90 ans. Ensuite, parce que la peinture de Marc Chagall signifie que les pendules sont des poissons, que les amoureux volent au-dessus des villes et que les maisons que les femmes ouvrent le matin et ferment le soir ont des yeux et nous regardent. Voici que cette signification légendaire reçoit aujourd'hui les honneurs du musée du Louvre. Marc Chagall est, après Georges Braque, le second artiste à pouvoir regarder ses tableaux dans un musée où sont confrontées les forces de la création picturale de tous les siècles révolus. De plus, cette entrée de Chagall au Louvre n'est pas pour lui la première. Pour lui, c'est un honneur, c'est aussi la possibilité de percevoir que son art est installé dans le débat millénaire de toutes les voix du silence. L'après-midi, préparé par François Le Targa, Sylvie Andreux et André Mathieu, sera organisé en fonction de l'actualité, puisque c'est aujourd'hui que l'exposition Chagall au pavillon de Flore subit l'assaut de 3 inaugurations successives. À midi, c'était celle du président de la République. À 3 heures, celle des critiques d'art. Ensuite, celle des invités, le grand public étant reçu à son tour à partir de mercredi. Dans ses dialogues du Louvre, Pierre Schneider a recueilli les déclarations de Marc Chagall dans la grande maison de la peinture. En premier lieu, si à son arrivée à Paris en 1910, tout de suite, dit Chagall, j'ai couru au Louvre, un nom magique, je sentais qu'ici était la vérité. Tout en haut, dans la grande galerie, j'ai découvert le grand tableau de Bassano, un mélange de personnages et de bêtes. J'ai senti que c'était très important. Je vais au Louvre pour me fortifier, me contrôler. On espère apprendre quelque chose, mais ça ne sert à rien. Rien ne nous aide, il n'y a pas de certitude. Apprendre, rien. On n'apprend pas à peindre. Je suis contre le bien dessiner, le bien peindre. Cézanne n'avait pas de dessin, rien. Et encore ceci de Chagall sur le Louvre. Le Louvre, c'est le cimetière génial. Ou bien encore, le Louvre, quel mot magique. Aller au Louvre, c'est comme ouvrir la Bible ou Shakespeare. Bien sûr, il y a des choses qui embêtent. Guido Reni est un pompier, mais c'est un pompier de grande classe. Et puis, Gilles, le tableau de Watteau, Gilles de Watteau, je donnerais tout pour ce pantalon. Ça chante et ça pleure comme Cimabue. Ce qu'on sent dans ce Gilles, ce n'est pas le sentiment de la mort, c'est la fin de la vie. Et puis, bien sûr, Cimabue, dont à l'instant nous entendrons Chagall nous parler presque en direct, puisque c'était à midi qu'on l'a enregistré. Cimabue, mon amour. Mon Dieu, quand je suis arrivé à Paris, c'était le grand choc, ça dépasse tout, cette religiosité. Non, je ne parle pas du sujet, mais de la toile. Cimabue est plus pénétrant que Giotto, il faut aller chez Watteau pour trouver l'équivalent. Nous avons trouvé Chagall, à l'issue de la visite du président de la République, assis dans un endroit du Louvre qui était réservé cette fois à une sorte d'élite. Il était installé sur une grande bergère. Près de lui, des femmes qui lui souriaient. Il avait l'air à la fois content et fatigué. Derrière lui, il y avait un tableau qu'il aime sans doute, il n'en a rien dit. C'est le tableau de Caravage, la diseuse de Bonaventure. Et là, évidemment, tout de suite, au mot musée du Louvre, Chagall a parlé de Cimabue.
Ah oui, Cimabue. Ah oui, oui, j'ai vu, oui, elle était sur l'escalier. Adorable, ça, en français, moi. Peut-être que c'est le premier tableau qui m'a fait un choc. Et je voulais rester en France. Oui. Cimabue. Avant tout. Vous savez, je ne comprenais pas beaucoup l'art français parce que j'ai lutté contre le réalisme. Ça m'embêtait, tous les tableaux sont réels, Monet, qui que ce soit. Je ne voulais pas. Contre le réalisme, jusqu'à 1900, au retour de l'Amérique 40, quand j'ai découvert la matière avec Monet. Mais avant, ça ne m'intéressait pas la peinture.
Et puis vous avez bien aimé aussi Watteau et Corot.
Mais après, toujours après, plus après qu'avant. Ma Watteau, pour moi, c'est le génie. Oh, c'est ma fille.
Oui, c'est vrai.
Watteau, vous savez, c'est incroyable. Les blancs, les gris, on peut devenir fou. Peut-être que c'est le type qui m'a, en France, qui me tourmente le plus, avec Monet, bien sûr. Avec Monet, Rousseau, Gauguin.
Pourquoi?
Pourquoi vous aimez votre femme et vous couchez avec elle? Moi j'aime ma femme.
Excusez-moi.
Oh,
ça c'est un monsieur qui vient de l'académie.
Wonderful to see you.
Yes. Tu te rappelles? Nous étions à
Glasgow.
Oui, à Edinburgh. Oui.
Magnifique.
You are very busy.
Chaque fois je monte ici parce que j'ai, je vais pas dire j'ai une hernie alors ça va être mal. Mais
l'Académie vous donne des nouvelles, l'Académie des Beaux-Arts d'Écosse vous donne toutes les nouvelles.
Merci beaucoup.
Vous avez beaucoup d'admiration.
Tu veux partir?
Bientôt partir, je crois.
Encore un mot, sur, tout d'un coup vous êtes à côté de Cimabue, dans la même maison.
En ce moment,
oui.
Oui, bonjour mon cher. Ça reste toujours. J'étais en Florence et j'ai vu les croix de Cimabue. Pour moi, ça reste toujours, mais il y en a Mozart.
Mais vous, Chagall, à côté de Cimabue, qu'est-ce que vous en pensez?
À côté,
votre peinture, à vous, à côté de Cimabue. Juste un mot.
Je pense que dans mon livre Ma vie, j'ai dit peut-être Rembrandt m'aimera. Dans mon livre Ma vie, Cimabue, c'est un. Grand monsieur.
Mais là, vous êtes à côté de lui maintenant. Vous êtes à côté de Rembrandt. Quelle impression avez-vous?
C'est à cause du président, on m'a invité, vous savez. Ça, je ne sais pas pourquoi. L'exposition, parce que peut-être on me trouve que je suis sympathique, on m'expose.
Oui, mais vous êtes au Louvre.
Ne croyez pas que je crois à quelque chose.
Ah, c'est un détail.
Merci.
Vous êtes gentil.
C'était Chagall parmi ses amis tout à l'heure, entre midi et midi et demi. Vous avez noté qu'il n'a rien dit, il n'a voulu rien dire. Il a caché derrière un sourire et un rire la réponse qu'il aurait pu faire à la question que lui posait sur ses sentiments devant son entrée, sa présence au musée du Louvre. Alors puisqu'il l'a pas dite, cette réponse, moi je la connais, il l'a déclaré à Pierre Schneider, le Louvre, ceux qui sont là-dedans sont des gens comme nous. Ils ont leur chance ou leur malchance d'entrer au Louvre. C'est tout. D'ailleurs, la moitié d'entre eux pourraient en ressortir. C'est ce que Chagall n'a pas voulu nous dire tout à l'heure. À l'issue de ce vernissage, et Chagall étant parti, emmené par ses amis, retrouver un peu de calme, car vraiment il y avait beaucoup de monde, nous avons rencontré dans un escalier un des vieux amis de Chagall, et surtout c'est l'homme avec qui il a fait quasiment une grande partie de son œuvre de lithographie. C'est le lithographe Charles Sorlier. Écoutez comment Charles Sorlier considère cette exposition de peinture récente.
Je trouve que le côté merveilleux de Chagall, c'est la continuité dans son œuvre, la fidélité à ses origines. Et ses derniers tableaux sont pour certains bouleversants. Je pense à la chute d'Icare, où par exemple Chagall m'a longuement expliqué devant cette toile qu'il a voulu mettre autre chose que le symbole grec, mais que là il avait voulu mettre l'homme voulant être ange, s'élevant vers le soleil, et bien sûr étant brûlé, alors que dans le village, la vie continue et tout est comme avant. Mais en contrepoint de cette toile, et malheureusement, là, nous ne la voyons pas à l'exposition, Chagall a peint récemment le char de Phaéton. Et je pense que dans son esprit, le char de Phaéton, c'est la résurrection et c'est la continuité du soleil. Et je crois que Chagall, c'est aussi la continuité du soleil. Et sa démarche est parfaitement prodigieuse pour moi. Je dois dire que Chagall est un des plus grands peintres de toute l'histoire de la peinture. Et j'espère que le public sera très content en voyant cette exposition au Louvre où il expose pour la deuxième fois, parce qu'on a dit que c'était la première fois. Or, les superbes tableaux du message biblique avaient déjà été exposés au pavillon Molien il y a déjà 7 ou 8 ans.
Marc Chagall par Marc Chagall.
Chagall par lui-même en remontant le temps. Aujourd'hui, les honneurs du Louvre pour un homme dans et d'honneur chargé. Hier, c'est-à-dire il y a 7 ans, le 30 avril 1970, Chagall, chez lui, à Vence, parle au milieu de ses amis pour l'émission « Une soirée chez » de Françoise Malétra.
Alors, je ne voudrais pas parler de moi. Il me semble que plus on en parle, moins on voit clair en soi. Moins on se sent compréhensible, moins on se sent d'ici, on s'éloigne. Plus on travaille, plus on se pose des questions, c'est-à-dire, que je fais? Souvent, je pense, c'est lié dans laquelle je vis, où sûrement je resterai. Cette Côte d'Azur, pour moi, c'est Vence, Saint-Paul, Nice. Cela a commencé quand le grand éditeur Ambroise Vollard m'a demandé de faire pour lui une édition du livre de luxe « Les fables de La Fontaine ». Pour réaliser ce travail, je suis parti vers la Côte d'Azur. C'était vers 1922-23, peu de temps après mon retour de la Russie soviétique. Il me semblait tout de suite être enveloppé de nuages roses, d'une vapeur parfumée émanant de fleurs et d'un renouveau de jeunesse. D'autant que peu de temps avant, à Vitebsk ou à Moscou, je vivais comme beaucoup d'un morceau de pain. Mais les pensées de La Fontaine, ce jardin doré avec ses coloris et ses sagesses me charmaient et m'entouraient. Je voulais commencer à travailler, partir loin de Paris en cherchant d'autres arbres, d'autres paysages, des bois, des fleurs, quelque chose d'autre en France que j'ai imaginé. Ce voyage, je l'ai entrepris avec mon ami d'alors, le peintre Robert Delaunay, dans son étrange automobile, qui sautillait le long des routes. Heureusement, il avait peu de circulation à l'époque. Plus j'avançais vers les provinces, plus je revenais à moi, tout autre. C'était la première fois que j'ai parcouru la France. Lors de mon premier séjour de 1914, je n'étais pas sorti de Paris. Je n'avais pas les moyens. Nous sommes arrivés dans le village de Limoux, près de Carcassonne, chez l'écrivain Joseph Deltay. J'ai découvert là les paysans, les vaches, les animaux de basse-cour, qui devait entrer bientôt dans mes gouaches et gravures pour les fables de La Fontaine. Puis, nous sommes dirigés vers Toulon. Plus j'avançais vers la Côte d'Azur, plus je me sentais renaître. Quelque chose d'un cognis. Dans mon enfance à Vitebsk, l'odeur des fleurs pénétrait en moi comme par vagues. Je vis déjà à Toulon, où nous ont été arrêtés, ces fleurs qui devaient bientôt se placer dans la main des fiancés et de loin le miroitement soyeux de la mer. En me rapprochant de Nice, j'ai senti, comme tant d'autres artistes qui ont vécu, que je pouvais m'arrêter là. Les poètes, les écrivains, les peintres ont traduit cette renaissance, ces changements qui Nice et ses environs inspirent. Pourquoi cela? Aucun autre lieu ne donne cette sorte d'impression, une approche incompréhensible, une clarté, une joie irraisonnée, l'insouciance, trop peut-être, ces charmes presque musicaux. Plus tard, j'ai vu le résultat de la vie de ces Côtes d'Azur, chez Renoir, chez Bonnard, chez Matisse et d'autres qui travaillaient ici. C'est Nice recouverte comme d'une dée fleurie. C'est là que je me suis arrêté et que j'ai commencé les esquisses. Et c'est les années, mais cette ère m'est transformée pour moi comme une autre Vitebsk, plus doux, plus tendre. Je ne peux pas trouver le mot pour expliquer ce qui m'a retenu ici. J'étais une autre. Quelle autre? Comme rajeuni d'une vingtaine d'années, et j'ai attendu quelque chose. Je suis contre le musée, parce que je pensais toujours, si on fait quelque chose de raisonnable, vous serez un jour dans le musée, n'est-ce pas? Si, au contraire, je suis dans le musée, et plus tard, ça ne correspond pas à le problème d'éternité, je serai flanqué dehors. C'est arrivé avec certains artistes. Alors je suis tranquille pour ça. J'ai au musée à Paris, j'ai fait quelques dons. Je n'ai pas été acheté, j'ai fait des dons. Mais je n'ai pas de prétention d'être placé comme ça ou comme ça. C'est le problème de l'avenir. Mais ça, ce n'est pas un musée. J'habite ici et je fais cette série biblique après mon voyage en Palestine, en Israël, après que j'ai fait la Bible pour voilà. Et j'ai pensé, non, je ne vais pas vendre ça. Et moi, avec ma charmante femme, Vava, nous avons décidé de le donner dans ici, parce que j'habite ici. Si j'habiterais à Vologda ou je ne sais pas, à Pôle Nord, je donnerais à Pôle Nord. Mais j'habite ici, je donne ici. C'est un don, c'est pas un musée. Et je pense, je n'impose pas ma vision biblique aux futures générations. J'aime la Bible parce que je trouve que c'est une œuvre poétique de premier ordre. Après, c'est Shakespeare pour moi. Et je suis inspiré de ces poésies terriblement. Vous comprenez? Voilà ma religiosité, n'est-ce pas? Et j'ai donné ça parce que j'habite ici, c'est tout. Après, j'ai dit avant, vous savez, par hasard, Nice est vraiment. C'est pour moi autre chose que Florence, j'aime Rime, mais ici, à Nice, je m'oublie un peu, j'ai déjà dit ça avant, n'est-ce pas?
Vous oubliez, vous vous retrouvez dans ce climat. Vous êtes, on vous sent bien.
Je ne sais pas. Il y a une chose insouciante. Quand j'entre à Nice, pas de question de travailler. Vous prenez.
Vous êtes devenu méditerranéen. Tout à fait.
Je ne dis pas oui. J'ai déjà dit avant, les artistes sont devenus peut-être trop tendres. Mais ça me plaît. Et je donnais ces tableaux. Je ne voulais pas le vendre, je donnais ça ici, et puis c'est fini. Je veux seulement que plus tard, dans les autres mairies, les autres générations ne jettent pas dehors, d'y garde.
De toute façon, la Bible, pas plus que le bonheur, ne s'enferme dans un musée, dans un vrai musée.
Je ne peux pas. Vous savez, je ne comprends pas mes tableaux, je ne sais rien, je ne comprends rien, Chagall. Vous savez, depuis longtemps, je répète la même chose.
Mais je pense que Marc Chagall lui-même ne sait pas très bien où est la frontière. entre...
J'aime le mot frontière. Vous savez, c'est difficile à... Hein. Une œuvre d'art, c'est justement quand on touche une certaine frontière. Moi, je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas, je dis souvent, quand j'étais jeune garçon, j'ai travaillé, quand j'habitais à La Ruche, en ce moment, est en train de se décomposer. Je faisais mes tableaux, j'ai jamais demandé l'opinion des autres. Venez chez moi des amis, surtout Sandra, qui était une des premières amies, parallèlement avec Apollinaire, mais il était en arrière-plan. Même à lui, je ne montrais pas mes tableaux. Il ne demandait pas, montre-moi. Il était forcé de montrer parce qu'il insiste. Mais je n'ai pas demandé et je n'ai pas attendu son opinion. Il écrit des poèmes après. Il me les a. Je ne montre pas mes tableaux. Je n'ai pas exposé. D'ailleurs, il n'y avait pas de place, pas de galerie pour exposer. Il y avait un salon indépendant et là-bas, vous payez 3 francs, quelqu'un amène les tableaux là-bas. Je ne montre pas mes tableaux, je ne montre pas des opinions. J'ai fait un tableau, je pensais, je crois que c'est fini, je l'accroche là-bas et comme ça, se ramasser. J'ai commencé seulement à demander l'opinion après le mariage. Oui. Ah oui, tout de suite. Première femme, demander une opinion. Et en ce moment, Chaman Valentin Vava, je demande Vava, et c'est pour moi très grave. Quand elle dit c'est bien, eh bien c'est bien. C'est fini.
Le 24 septembre 1964, Chagall sous son plafond de l'opéra, le jour de l'inauguration, au micro de Sophie Dumoulin.
C'est toujours le même problème. Il y a un
avec
certain
André
nombre
Malraux
de gens qui trouvaient mauvais quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Il était indispensable que dans un endroit où le plafond avait disparu, on puisse retrouver l'immense qualité poétique qui est celle de la musique et qui a été celle de tous les grands plafonds italiens. Chagall avait dit, en somme, je ne ferai pas quelque chose comme Tiepolo. Eh bien, il a fait parfaitement quelque chose d'aussi bien que Tiepolo et il a apporté la fête de Paris avec tout ce qu'il apportait de si loin, comme l'autre avait apporté la fête de Venise. Les gens qui étaient ici, qui viennent d'applaudir, étaient arrivés sans préjugés. Ils ont reconnu la poésie, ils ont applaudi. Eh bien, madame, tant mieux.
Marc Chagall, vous remerciez maintenant tous vos amis qui viennent vous saluer après avoir applaudi ce plafond.
Mais je ne sais rien dire parce que, vous savez, je suis ébloui par devant les
applaudissements
des amis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup inquiet. Mais je ne peux rien dire parce que je suis très mouillé, je suis encore enrhumé. Et puis tout le monde m'a embrassé encore. Il y a des rouges sur mes lèvres, je crois. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malraux a dit tout ce qu'il faut.
Mais je voudrais savoir comment vous avez pensé ce plafond.
Je n'ai pas dormi une nuit, deux jours, et voilà, j'ai pensé. Je ne sais pas quoi penser. Il faut regarder seulement.
Monsieur Georges Auric va nous donner son impression maintenant.
Bien, mon impression de ce soir, et d'ailleurs, tout simplement, celle que j'ai eue il y a plusieurs jours, quand j'ai pu voir pour la première fois ce plafond de Marc Chagall. Pour moi, c'est une chose particulièrement émouvante parce que quand j'avais 15 ans, quand j'avais 16 ans, j'admirais déjà Chagall, qui était mon aîné, mais que je percevais à Montparnasse et qu'il n'était bien loin à ce moment-là d'imaginer qu'un soir, je le retrouverais dans une salle comme celle de l'Opéra. Ce soir, je suis très fier pour l'Opéra et je suis profondément heureux que Chagall ait accepté de faire don à notre salle, à notre pays, d'une aussi magnifique réussite.
Maintenant, après les personnalités officielles, après avoir recueilli les impressions émues du peintre, nous allons promener notre micro dans les étages de l'opéra et demander l'avis du public, l'avis des habitués.
Ça m'intimide trop. Excusez-moi, n'en veuillez pas.
Certes, il est plein de lumière. Et vraiment, c'est très bon pour notre opéra qui commence à être un peu éteint.
C'est pour le Palais Chaillot, mais non pas pour ici. Ça ne cadre pas du tout. Il est très beau d'ailleurs, le plafond. Mais ça ne cadre pas du tout avec le cadre de Garnier, n'est-ce pas ? Maintenant, ça n'a pas d'importance, parce que comme personne ne regarde le plafond à l'opéra sauf ce soir, personne ne s'apercevra que du suivi de Chagall, pas plus qu'on s'est aperçu si je le veux autrefois.
6 ans après, il en parle encore lors de soirées chez.
Pas quand je fais le plafond de l'opéra, bien sûr. Et, ça, c'était malheureux. J'avais peur un peu malheureux quand même. N'est-ce pas ? Fallait écouter, c'est malheureux.
Il fallait bien travailler.
J'ai demandé aussi. J'ai demandé avant, mais ça n'a rien à faire avec le message public. Et j'ai demandé à Maduro quoi faire. Il a dit, faites ce que vous voulez. Et après, bon, j'ai fait des esquisses. J'ai fait avec énorme difficulté une esquisse. J'ai dit à ma femme, eh bien, maintenant, il faut inviter Maduro pour le montrer. Ah non, il dit, c'est un seul, il faut encore faire pour qu'il puisse choisir. Alors, il fallait recommencer autre chose faire. Parce qu'il faut avoir quelque chose, autrement, ça fait qu'il vous en posez. Voilà, il a accepté. J'avais peur. Le plafond, il y a beaucoup de gens, qui m'ont grondé, les Français, etc. Vous savez, mais qu'est-ce que vous voulez,
Mais ce qui est étonnant, Marc Chagall, c'est quand, lorsque, par exemple, l'État, la personne d'André Malraux, vous commande, c'est une commande, le plafond de l'opéra vous demande de bien vouloir le faire, ça s'appelle une œuvre dite de commande. Vous le faites avec autant de joie, autant de bonheur qu'un tableau que vous faites ici, tout seul, pour vous, pour votre plaisir.
C'est surtout la joie, parce que je ne touche rien. Alors ça me fait, comprenez, je ne touche rien, alors je suis libre. Vous voyez ?
C'est important, la liberté.
Et je ne touche pas, alors je suis libre. Voilà. Rien, touche pas, ça me donne une facilité. Je suis plus poétique, plus transparent, j'aime ça.
Il y a moins d'angoisse ?
Ah, c'est une jolie question. L'angoisse, c'est la nuit où il y en a, l'angoisse. Je n'ai pas accepté tout de suite, mais j'ai voulu souvent, surtout quand on a quelque part en France, dans le journal, on a écrit non. Je voulais dans la nuit, et je me réveillais, et je dis à ma femme, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, je vais écrire à Malraux, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça me dépasse. Et ma femme m'a dit, écoute, assez de se tourmenter, fais quelque chose des esquisses. Si c'est bien, alors tu diras. Si c'est pas bien, tu diras que ça ne marche pas.
Le 28 avril 1962, journal parlé de l'ORTF.
En la salle des délibérations de la mairie de Vence, une foule nombreuse d'invités et d'amis assistait à la remise du diplôme de citoyen d'honneur de la ville de Vence au grand peintre Marc Chagall. Après la locution fort spirituelle du maire, maître Jean Marais, Marc Chagall, fort ému, lui répondit.
Je suis touché beaucoup, peut-être plus, qu'à Oxford ou en Amérique, quand on m'a proposé le doctorat, je ne sais pas de quoi. Je suis vraiment touché ici. J'espère que les Anglais et les Américains ne sont pas présents ici. Ils ne seront pas fâchés. Il faut vous dire que vous avez parlé de mariage. Ma fille a déjà été mariée chez vous ici, il n'y a pas longtemps. Et même nous, un peu pas trop loin. Ce que je voulais vous dire, je suis vraiment profondément reconnaissant à vous, monsieur le maire, et à toutes les municipalités qui me font un si grand honneur. On m'a dit souvent de moi que je suis un artiste soi-disant fantastique. Mais il faut vous dire que quand je me rappelle, il y en a, je ne sais pas combien d'années déjà passées, je ne peux pas le prononcer, peut-être 50, peut-être plus, en plus peut-être. Quand j'étais garçon et je marchais sur les toits de ma ville natale, où j'étais accompagné seulement par la pauvre lune de ma ville natale, je n'ai jamais pensé que je deviendrais citoyen d'honneur. Et où ? En France, dans la ville de France, dans le pays d'art. C'est une chose incroyable. Citoyen d'honneur ici, ça dépasse ma fantaisie. Vous voyez, je ne suis pas assez fort.
Ici Vence Radiodiffusion, Télévision Française.
Un an auparavant, le 16 juin 1961, au micro de Jeannine Tucher, pour Rendez-vous à 5 heures, lors de la présentation des vitraux pour Israël.
Dans le jardin des Tuileries, à l'ombre du carrousel, Monsieur André Malraux, ministre d'État des Affaires culturelles, a fait construire un pavillon spécial. Pendant un mois, les Parisiens pourront y admirer des vitraux de Chagall qui partiront ensuite orner une synagogue en Israël. Nous sommes aujourd'hui à l'inauguration de cette exposition qui dépend du Musée des Arts Décoratifs. Marc Chagall, ces vitraux sont destinés à une synagogue située en Israël, que vous avez été évidemment voir avant de les composer.
Et c'est une synagogue qui va se construire, qui sera inaugurée l'année prochaine. Et je travaille à peu près il y a presque 2 ans. Et voilà, et maintenant il est inauguré grâce à la permission du ministre. Il a construit un pavillon et les directions des arts décoratifs. Je suis heureux et très reconnaissant pour leurs gestes.
Mais dites-moi, il a fallu que vous fassiez construire probablement des verres spéciaux pour ces vitraux. Est-ce que vous avez fait construire quelque chose dans le genre de ce que Matisse avait fait pour la chapelle de Vence?
Non, n'entrons pas dans les questions trop techniques. Je suis un peu fatigué de parler ça.
Oui.
J'aimerais dire que j'ai chanté comme je pouvais. Et ce qu'il a dit, mes parents et ma ville natale, la France m'a donné. Et aux autres, à juger. J'ai travaillé dans l'atelier de... Travailler dans l'atelier de Jacques Simon avec les Charles Marc qui est ici à côté de moi en ce moment, dans leur atelier, qui m'a inspiré terriblement parce qu'il a une femme charmante aussi. Lui, il est gentil. Et alors, j'étais très touché. Il m'a donné chaque fois un café crème.
Et dites-moi, pourquoi, pour retomber sur la Terre, pourquoi ce chiffre 12, est-ce que c'est un chiffre symbolique ou ça correspond? Bien,
vous n'avez pas lu la Bible. C'est les 12 tribus bibliques et il paraît, après la légende, l'humanité sort de ça. Ce sont des documentations, que la psaume de Jacob qui parle de ses enfants avant la mort. Il caractérise chaque fils. Et voilà, ce sont
les 12 tribus d'Israël. Moi, j'avais pensé que vous aviez peut-être pris quelque chose dans la Kabbale, qui est la science des nombres.
Non, nous avons pris tout ce que vous voulez de toutes les sources, mais c'est strictement de la psaume de Jacob, ce sont les 12 tribus de la Bible.
Et dites-moi, à quel thème décoratif avez-vous fait appel, parce que le judaïsme est assez austère et que toute figuration de Dieu y est interdite?
Ah oui, je ne sais pas, ça, je ne sais pas dire. On me demandait gentiment d'éviter des figures, c'est tout. Dans le reste, j'ai été libre comme je peux, comme j'ai les dons.
Et alors, vous avez fait appel alors à des thèmes bibliques, floraux?
Non, j'ai évoqué ce que Jacob dit dans ses psaumes à propos de chaque fils.
C'est en somme une illustration biblique?
Oh, je déteste le mot illustration.
Mais pas le mot biblique en tout cas.
Et biblique, ah oui, la Bible, c'est un grand livre génial. Oui.
Et dites-moi, est-ce que vous avez une conception différente de l'art profane et de l'art sacré?
Non. Si on demande une chapelle en synagogue, c'est une chose. Et si une maison profane, une maison, c'est autre chose. Il ne faut pas mélanger.
Vous l'abordez dans un esprit différent, alors?
Je l'aborde, mon Dieu. Le mot aborde, c'est trop fort. C'est autre chose. Je fais pour la cathédrale de Metz, alors c'est autre chose. C'est une maison de... Si c'est un théâtre, une maison publique, ça sera autre chose.
Oui, naturellement. Vous adaptez votre inspiration à chaque sujet que vous traitez.
Le mot
est-ce qu'on peut vous demander quels sont vos projets maintenant, mon cher Marc?
Ah, je vais vivre et puis profiter du soleil.
Allez vous reposer, vous l'avez bien gagné.
Merci des bonnes gens qui viennent, le peuple, parce que je travaille pour le peuple.
Und tef zu versuchen, ist es besser wie zu legen, alate. Oi, als der Jontef kommt, werdet mir abissu, freilich auf der Neschome. Die Fratas gut geht, Ze doine schissu, wer dos leb ane hoi. Dos horat i sich poshet me haie, nit ho kein grisote. Hane le tuton male buchi menaje, У них мир мань капоте.
Et puis, il y a 10 ans, le 7 juillet 1967, la fête de ses 80 ans, un reportage de Jean-Pierre Cartier et Jean-Claude Turchman.
Une fête qui se déroule sans doute d'une toute autre manière, mais qui est tout aussi joyeuse. Celle qui se déroule dans l'appartement du peintre Marc Chagall. Je pense que Jean-Albert Cartier est aux côtés du peintre Chagall, qui fête aujourd'hui son 80e anniversaire. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure en commençant ce journal. Je pense, Jean-Albert Cartier, que les nombreux petits-enfants du peintre sont autour de lui aujourd'hui.
Écoutez, Jean-Claude Turgeman, c'est pas tout à fait exact. Je suis en effet dans l'appartement de Chagall, dans cet appartement qui donne sur l'île Saint-Louis et qui est rempli de corbeilles de fleurs. Ces corbeilles de fleurs arrivent, on peut le dire, du monde entier. Il y en a des États-Unis, il y en a de Suisse, il y en a aussi beaucoup qui viennent de France, de tous les amis français de Marc Chagall. Mais les petits-enfants de Chagall, qui sont très nombreux, combien sont-ils, Chagall ?
Il y a pour le moment trois. Trois.
Trois seulement ?
Ah oui, trois, très jolis.
Moi, j'avais l'impression qu'il y en avait davantage.
Est-ce qu'ils sont venus déjà vous souhaiter votre anniversaire ?
Ah, oui, oui, ils sont venus le matin, apporter des cadeaux très jolis.
Parce qu'il faut donc vous redire que c'est aujourd'hui que Marc Chagall a 80 ans. Il y a 80 ans exactement que naissait le grand peintre lyrique, féerique que nous connaissons, dont la donation est actuellement exposée au musée du Louvre. Il faut le rappeler, il naissait dans un village modeste de Vitebsk, en Russie. Dites-moi Chagall, maintenant que vous êtes arrivé, on peut le dire, au sommet de la gloire, vous avez une famille nombreuse qui vous entoure, vous avez la richesse, vous avez la gloire, vous avez le monde entier, aime Chagall, est-ce que vous êtes un homme heureux?
Je suis heureux que je suis en France, que je suis venu il y a 50 ans, il y a 60 ans, et j'ai vu cette lumière, et grâce à cette lumière, je pouvais réaliser, je crois que j'ai réalisé ce que vous voyez devant vous en France, quelque part encore. Je suis reconnaissant, et c'est pour ça que j'ai donné tous ces tableaux bibliques et autres choses à l'Opéra pour la France. Et puis c'est tout.
Marc Chagall, quel est votre plus beau souvenir de votre vie de peintre ?
L'arrivée en France en 1911, quand j'ai vu ce café devant la gare du Nord, j'ai vu le soleil, une autre soleil, une autre lumière qui est à Vitebsk.
Alors je vous pose une autre question, Chagall. Je vous pose une autre question pour vous retourner sur combien 60 ans de peinture, en quelque sorte. Quel effet cela vous fait ?
Je ne sais pas. Il me semble que je dois encore recommencer, peut-être. Je doute toujours et je ne sais pas comment ça se fait que je suis exposé en ce moment au Louvre. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble toujours que je dois travailler encore et encore et encore. Dieu sait qu'est-ce que je deviendrai. Je ne suis pas très content, vous savez.
Dites-moi, est-ce qu'il est plus difficile de faire de la peinture lorsque l'on a 80 ans ou lorsque l'on a 20 ans ?
Ah, ça c'est une question terrible. C'est très difficile à vous répondre. Je crois que c'était plus facile quand j'avais 20 ans. Et en ce moment, c'est très difficile. Et je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas dire.
Où en est l'inspiration lorsque l'on a fait tant et tant de peintures ?
Il ne faut pas d'inspiration. Il faut travailler simplement. Il faut travailler et travailler.
Et c'est le conseil que vous donneriez aux jeunes peintres ? De travailler ?
Ah, il faut travailler, mais il faut avoir quelques dons quand même.
Mais au-delà d'une biographie d'une vie commencée à Vitebsk en 1887, une œuvre évoquée par Georges Charbonnier dans son livre « Le monologue du peintre ». Un homme assis sur une cheminée tout en haut d'un toit. Un âne, un homme qui joue du violon. Une maison, au-dessus de la maison, un homme. Au-dessus de l'homme, un croissant de lune. Un poisson, un homme. On dirait un guerrier assyrien sur son outre. Et des anges, des violons. Un portrait de femme, un violon. Sur la poitrine de la femme, un équilibriste. Un danseur vert aux ailes blanches, avec une tête jaune d'oiseau. Un bras traverse une pendule, et rouge, très sombre, la piste du cirque. Sur la piste, une écuyère et des maisons, et une danseuse, et un âne, et un homme qui joue du violon.
Quand j'étais garçon, j'ai regardé toujours par la fenêtre. Toujours. Qu'est-ce que j'ai cherché dans l'air, dans le ciel? J'ai cherché une chose divine, une chose, une luminosité certaine, que j'ai attrapée un peu en faisant les vitraux à Reims.
Une vie, une œuvre et un livre, intitulé « Ma vie ». Ce qui d'abord m'a sauté aux yeux, c'était un ange. Ma ville, triste et joyeuse. Je vois le fleuve s'éloigner, le pont au plus loin, et tout près, la clôture éternelle, la tombe. Du sang à flot. Ma tante est couchée sur le divan, les mains jaunes sont pliées, croisées, ongles noirs et blancs, les yeux jaunes et blancs. Les dents brillent nébuleusement. Robe noire, à travers laquelle apparaît le corps allongé, épuisé. Je suis seul dans la rivière, je me baigne, à peine si je trouble l'eau. Autour, la ville paisible, le ciel laiteux, bleu noir, et un peu plus bleu à gauche, et du plus haut resplendit un bonheur céleste. Soudain, du bord opposé, au-dessus du toit de la synagogue s'élance une fumée, comme si on entendait les cris des rouleaux brûlants de la Torah et de l'autel. Les vitres se brisent, vite, hors de l'eau, tout nu, à travers les poutres, je cours chercher mes vêtements. J'aime tant les incendies. Le feu rejaillit de tous côtés. Déjà, la moitié du ciel est en fumée. Il se reflète dans l'eau. Les boutiques se ferment, tout s'agite, les gens, les chevaux, les meubles, des cris, des appels, des culbutes. Plus chère, plus émouvante est devenue pour moi ma maison natale. Je cours vers elle pour la voir et lui dire adieu. Sur son toit tombent déjà les charbons, les ombres, les reflets du feu. Elle est comme évanouie. Mon père, moi, les voisins, nous l'arrosons, nous la mouillons. Il la sauve. Vers le soir, je monte sur le toit pour mieux contempler la ville brûlée. Tout fume, se fend, s'écroule. Triste et fatigué, je rentre à la maison. Et Chagall termine son livre. Ces pages ont le même sens qu'une surface peinte. S'il y avait dans mes tableaux une cachette, je pourrais les y glisser. ou peut-être se collerait-elle au dos d'un de mes personnages, ou encore sur les pantalons du musicien de ma peinture murale. Qui peut savoir ce qui est écrit sur son dos ? Une vie dont il parle à Jacques Chancel dans la radioscopie du 24 mai 1971, l'arrivée à Paris. Mes jours se traînent sur la place de la Concorde et près du Luxembourg. Je regarde Danton, je regarde Watteau. Paris, tu es mon second Vitebsk. Une œuvre dont Jacques Lassaigne fait l'analyse sensible, loin des écoles, des théories, de l'histoire de l'art. Et cela en 1969.
C'est un homme quasi insaisissable, du moins un artiste quasi insaisissable. Et j'avoue que j'espère beaucoup de cette exposition, parce que je suis sûr qu'elle va nous étonner encore. De même que je crois qu'il est impossible de classer Chagall dans une catégorie. Chaque fois que je vois dans un ouvrage que l'on met Chagall, ou dans les fauves, ou dans les surréalistes, ou dans
les expressionnistes,
j'avoue que je ris, parce qu'il n'a absolument rien de commun avec aucun de ces mouvements. Ou il les touche peut-être un peu, comme tout grand peintre touche beaucoup de choses, mais vraiment, il ne rentre pas dans les cadres. Il adore découvrir des moyens nouveaux. Et avec ces moyens, eh bien, il fait quelque chose d'absolument imprévu, que souvent les techniciens les plus avertis de ces moyens n'ont jamais même entrevu. Alors, je pense qu'il ne faut pas le définir, Chagall. Il faut attendre ce qu'il vous apporte. Et il faut essayer de partager à ce moment-là son émotion, car c'est évidemment un art qui est toujours un art d'effusion et d'émotion. Jamais il n'obéit à une impulsion proprement intellectuelle. Il ne veut jamais prouver quelque chose. Je crois que c'est ça sa caractéristique. Et dans tous ces mouvements qui agitent la peinture moderne, où les théories jouent un tel rôle, et où la peinture ne suit pas toujours, lui se trouve absolument en dehors. C'est le contraire même d'une peinture intellectuelle. Il n'a pas du tout le trait ingresque ou picassien. Au contraire, lui, il part toujours d'une chose extrêmement vague, extrêmement subtile, et d'où il dégage peu à peu quelque chose. Je l'ai vu tout de même une fois travailler, et je crois que c'était sa première expérience de sculpture. Il avait voulu faire un monument mortuaire commémoratif pour une amie très chère qui venait de disparaître. Il n'avait jamais pratiqué la sculpture. Et on lui a apporté un peu de plâtre. Et il l'a façonné avec beaucoup d'ailleurs de timidité, de respect. Et je dois dire que très vite, il a sorti quelque chose d'extraordinaire qu'on a donné au fondeur et qui a fait une très belle plaque. Mais il a un très grand respect des matières, une certaine, je ne dis pas la peur de la matière, non, mais un respect. Et il découvre très vite les possibilités, car il a un don extraordinaire manuel. On l'a vu dans les céramiques, quand il a commencé à faire des céramiques, il a fait ça, mon Dieu, par jeu, au fond, parce qu'il a vu d'autres en avaient fait, tous les grands artistes en faisaient. Alors, mon Dieu, il s'est mis à essayer, et très vite, il a saisi des choses que les autres n'avaient jamais vues, cette espèce de mélange de formes et de couleurs qui, je crois, lui est tout à fait particulier.
Commentaire de Chagall. Comme j'ai du talent, je fais ce que je peux. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut toujours travailler. On ne peut pas obtenir un idéal sans travail. Une peinture qui serait une musique qu'il aime.
La musique, c'est pour moi, quand j'entends Mozart ou Bach, c'est comme la Bible, comme Rembrandt, c'est incroyable. Vous savez qu'est-ce que c'est Mozart et Bach qui existent sur la Terre? Surtout les garçons qui meurent à 35 ans et personne n'est allé à son enterrement. C'est ça qui me touche énormément.
Il y a autre chose que cela.
Autre chose, c'est la musique. Ah non, la musique, écoutez, la musique. Parlons pas.
Pourquoi? Si, parlons.
C'est terrible, la grandeur. Grandeur dans un art, vous savez, la musique, Mozart ou Bach, ou même dans notre temps, Stravinsky, certaines choses de Stravinsky, et même Schoenberg, des choses incroyables. Notre humanité sur cette planète a créé des choses formidables. Il faut être modeste. Et les Rembrandt, et les Cézanne. Et le Goya et tout ça. Ça, nous pouvons voir de loin. De loin, nous voyons. Mais quand le pauvre Mozart est mort, sa petite femme n'est pas allée en son enterrement. Et elle ne pouvait pas aller. Ou quand le grand Vermeer est mort, elle n'avait pas d'argent pour l'enterrement. Elle avait quelques tableaux, ça ne va rien. Il fallait prêter l'argent. Nous ne parlons pas. Écoutez, je m'excuse que je parle de ces grands noms, mais vous me posez des questions pour la musique.
Je suis jaloux de Mozart, de Rembrandt, de certains portraits de Goya. Je suis jaloux de Leticien de la vieillesse. Je suis jaloux de vous, parce que vous êtes jeune, dit-il à Jacques Chancel. Rien donc ne saurait être parfait.
La perfection, pour moi, souvent ressemble à la mort.
Les archives de la radio contiennent des rencontres avec Chagall assez nombreuses pour que François Le Targa et André Mathieu aient cru pouvoir, en choisissant dans les heures d'enregistrement que conserve l'Institut National de l'Audiovisuel, nous proposer ce Marc Chagall par Marc Chagall. Un autoportrait de plus dans une galerie nombreuse, Chagall s'étant constamment regardé dans le miroir, au moins autant, sinon plus, que Rembrandt et Van Gogh. Chagall devant la jeunesse, 90 ans de vie, pour commencer bien sûr, 75 années de peinture à peu près, est-ce que ça intéresse les gens de 20 ans ? Sylvie Andreux, donc, a ouvert son micro auprès des jeunes qui s'intéressent à l'art, des jeunes étudiants des Beaux-Arts. Elle est allée, vous allez l'entendre, successivement dans la cour de l'École nationale supérieure, rue Bonaparte, et puis dans une, à la porte de l'Académie Julian, rue du Dragon, à Paris, bien sûr.
Qu'est-ce que représente Chagall pour vous ?
Je sais pas, la culture juive, je crois. Mais quelqu'un d'à part, quand même, dans la... Dans la peinture moderne. Pour moi, ça représente le peintre d'une certaine culture.
Je peux vous poser la question aussi ?
Écoutez, je connais pas beaucoup. J'ai vu quelques tableaux de lui à Beaubourg. J'en ai surtout beaucoup entendu parler, mais...
Est-ce qu'il représente quelque chose de particulier ?
Oui, les Juifs. Ça se ressent beaucoup dans sa peinture. Moi, je crois. Moi, j'ai vu quelques tableaux, c'est... Je sais pas comment vous dire. Il y a beaucoup de noir, de... C'est beaucoup tourmenté, je crois que... Je sais pas comment...
Il est agressif, hein, dans sa peinture.
Oh, si, moi, je le trouve agressif.
C'est pas agressif, c'est... Les tons sont vachement... Peut-être que les tons sont vifs, par exemple, c'est bleu turquoise. C'est bien avec ces animaux, c'est...
C'est pas lui qui a fait des animaux, c'est pas lui.
Ah, c'est celui qui a fait une espèce de
vache.
Ah, oui, d'accord. Ah, oui, ben non, moi, je pensais à un autre.
Il y a un tableau qui est bleu turquoise, c'est... enfin, c'est magnifique. On est passé devant au Louvre, devant l'exposition qui se montait le jour. Puis on l'a vu, enfin on a vu plusieurs tableaux qui étaient installés.
Quelle importance vous lui accordez ?
J'attends l'exposition du Louvre pour le découvrir un peu. Quoi.
Mais est-ce que c'est quelqu'un qui compte dans votre sensibilité, dans votre curiosité ?
La sensibilité, certainement. Enfin, la curiosité, bon, moi je vais y aller au Louvre quand ce sera là. L'exposition pour voir un peu, pour connaître. Quoi.
Qu'est-ce qu'on vous a dit de l'œuvre de Chagall ici ?
On n'en a pas parlé encore. Enfin, on est nouveau, mais on est en P1, alors on ne sait pas encore.
Je ne connais pas beaucoup Chagall. Hein. Je sais simplement que c'est très coloré, c'est très dispersé comme truc. Hein.
Attendez, vous pouvez répéter ?
C'est des violoncelles qui se baladent dans le ciel, enfin, c'est un peu le rêve, c'est tout bleu, c'est...
Oui, c'est souvent, c'est assez... Il y en a un peu dans tous les sens, il y en a un peu toutes les couleurs.
Est-ce que c'est une œuvre qui compte pour vous ? Parce que vous dites ça un peu du bout des lèvres.
Bah, je ne connais pas tellement.
Oui. Non, je connais pas.
Je vois ce que c'est, mais je connais pas grand-chose de toute façon.
Ouais.
Vous connaissez... Mais ça peut être intéressant, ça pourrait m'intéresser fortement, ça c'est sûr. Je ne peux pas dire grand-chose.
Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Chagall parce que je trouve que sa peinture est assez fantastique. Enfin, j'aime pas. Je ne sais pas quoi dire.
Oui. Vous pensez que c'est quelqu'un d'important, bien sûr ?
Parce que moi, j'aime, oui, c'est important pour moi.
Oui. Et vous ?
Moi, j'aime beaucoup.
Est-ce que vous vous souvenez d'une œuvre en particulier de Chagall que vous appréciez ?
C'est la coupole, là.
Oui, la décrire, la raconter. Les couleurs de Chagall, pour vous, sont lesquelles ?
C'est toutes les couleurs. Il y a un tableau que j'aime beaucoup. Il a représenté un coq rouge, très très hérissé.
Moi, personnellement, j'aime son côté assez onirique, mais c'est la technique qui me gêne beaucoup.
C'est-à-dire ?
La manière de... Enfin, ses compositions et la manière dont il traite tous ces sujets. Mais sinon, j'aime beaucoup les coloris et, disons, toute l'atmosphère qui s'en dégage.
C'est assez flou, on n'est pas habitué à un dessin, on est plutôt habitué à un dessin académique ou strict, mais pas à un dessin aussi, enfin, je ne sais pas comment le qualifier.
Qu'est-ce qui ne connaît pas Chagall ?
Moi, je ne connais pas du tout.
C'est un peintre d'origine russe.
Je connais le nom.
Il a bien fait des vitraux, je suis allée voir ses vitraux en Israël, et ça, j'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que ses peintures d'ailleurs. J'ai trouvé très très beau, très lumineux et... fantastique.
Est-ce que c'est quelqu'un qui compte pour vous ?
Chagall ? Mais écoutez, franchement, je ne connais pas très bien ses peintures. Je connais surtout ses vitraux, mais vraiment, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé.
Pourquoi ? Si on pouvait raconter.
C'est plutôt une impression. Si vous voulez, d'abord, l'exposition était très bien faite et on avait l'impression d'une telle luminosité dans le dessin. C'est difficile à exprimer, mais j'ai trouvé vraiment ça très très beau.
Marc Chagall, peinture récente, 1967-1977, au musée du Louvre. Marc Chagall est partout. Le peintre qui est apparu avec des images qui semblaient devoir demeurer secrètes, tant elles étaient habitées d'une possibilité d'échange entre la terre et le ciel, a reçu des propositions de tous les côtés. Et il a répondu à toutes les demandes. Des vitraux pour la cathédrale de Reims, un plafond pour l'Opéra de Paris, un décor pour l'auditorium de Tokyo, des vitraux pour un hôpital d'Israël, des images pour un parlement, des illustrations pour les fables de La Fontaine, j'en passe. Chagall a tout accepté des propositions que les sociétés lui faisaient, assuré d'y pouvoir faire entrer une force qui s'imposait à lui déjà, alors qu'il n'avait pas beaucoup plus d'avenir que de peindre des enseignes pour le coiffeur, le boucher ou le mercier de Vitebsk. Le message de Chagall, dont on aurait pu penser que naïf, il n'aurait pas dépassé le quartier et qu'il allait devenir incompréhensible au coin de la rue, a été soudain demandé comme s'imposant à tous, à la communauté et aux communautés de tous les pays. Qu'y a-t-il donc dans Chagall qui soit si naturellement universel ? Nous allons partir maintenant pour le musée du Louvre, pour le vernissage de presse. Devant les tableaux récents de Chagall, les spécialistes sont venus. François Le Targa assiste à la découverte de ces 62 tableaux inédits. Nous sommes en direct du musée du Louvre. François Le Targa.
Oui, Pierre Descartes, nous sommes en direct du musée du Louvre, dès l'entrée où arrivent tous nos confrères, bien entendu, spécialistes de la presse. Il n'y a pas encore grand monde. Et le premier tableau à côté du service de presse où l'on donne les catalogues réservé justement aux gens du métier, et se trouve à côté d'un tableau que vous avez vu certainement vous-même ce matin, et qui n'est pas sans en rappeler un que vous aimez beaucoup, qui est la chute d'Icare. À vrai dire, le Bruegel s'appelle Paysage avec chute d'Icare. On voit dans ce tableau conservé en Belgique, n'est-ce pas, au Musée Royal de Bruxelles, le pauvre Icare qui tombe dans l'eau, dans l'indifférence générale, tandis que l'autre continue à creuser son sillon. Et bien chez Chagall, vous avez pu le remarquer, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire qui se passe, étant donné que Icare tombe au milieu d'une foule, n'est-ce pas ? Et c'est déjà, dès ce premier tableau, la vie. Nous nous trouvons ici, donc, en pleine vie, en pleine couleur, comme toujours avec Chagall. Donc, ces 70 tableaux installés dans la salle de Flore, au deuxième étage, installés, donc, dans un climat très clair, très lumineux, et, vous l'avez remarqué aussi, sans cadre, juste avec une simple baguette de bois. Je vois qu'on commence déjà à photographier et je vais demander, j'espère que vous m'en recevez à peu près convenablement, j'entends beaucoup de bruit moi, dans mes oreilles.
Oui, non, tout va bien, la liaison est excellente.
La liaison est excellente.
On participe vraiment à ce vernissage de presse.
Alors, donc, nous allons faire un tour dans ce vernissage de presse et il y a là différentes personnes, certaines connues, d'autres moins connues ou, comment dirais-je, invitées anonymes. Il y a par exemple un de nos confrères extrêmement connus, qui est Georges Charansol, à qui je vais demander son avis sur cette exposition, Georges Charansol.
Bah, c'est évidemment une exposition admirable, et ce qui est prodigieux, c'est que ces œuvres soient récentes, c'est-à-dire soient les œuvres d'un homme qui a aujourd'hui 90 ans et qui montre la même jeunesse qu'il manifestait en 1923, quand je l'ai interviewé pour la première fois dans le très modeste appartement qu'il occupait à Montparnasse à son retour de Russie.
Oui, en somme, vous qui l'avez évidemment très bien connu, d'ailleurs vous le tutoyez à la ville, vous le tutoyez même dans les interviews qu'on a de vous à la radio, donc vous connaissez bien Chagall, vous le retrouvez comme au premier jour, rien n'a changé, rien n'a...
Regardez ce roi David, c'est dans la grande tradition de toutes ces œuvres inspirées par la Bible et qui sont le sommet de son œuvre, à mon avis, car c'est un homme dont l'esprit religieux est extrêmement profond. C'est un homme qui a été marqué par son enfance. On voit constamment des vues de sa ville natale avec des personnages bibliques qui s'intègrent parfaitement à ce ghetto de Vitebsk où il est né.
En somme, pour être un grand peintre, et Chagall est un grand peintre, il n'est pas nécessaire de se renouveler tous les 8 jours. On peut pendant 80 ou 70 ans peindre de la même façon sans se répéter, si je puis dire.
Ah oui, vous avez raison de dire sans se répéter, parce qu'il se renouvelle constamment. Regardez son plafond de l'opéra, son extraordinaire plafond de l'opéra. Ça a été une révélation lorsque nous l'avons vu pour la première fois. Chagall est toujours lui-même et Chagall est toujours nouveau.
Je vous remercie. Oui, en effet, c'est donc un miracle toujours renouvelé, donc la peinture de Chagall. Et je me promène dans ces salles qui commencent à se remplir. Il y a là un jeune homme, je ne sais pas si c'est un jeune journaliste ou un jeune étudiant. Chagall pour vous.
Oui, excusez-moi, j'arrive à l'instant et je n'ai pas eu le temps de visiter cette exposition, donc je n'aurai pas grand-chose à vous en dire. Hein.
Alors je vous attends quand vous aurez fait un tour d'exposition. Pierre Descargues, je ne vais pas faire le commentaire bien sûr de tous ces tableaux qu'il y a, ils sont trop nombreux. Je crois que la couleur, comme toujours chez Chagall, est la chose importante. Et puis tout de même une espèce d'imagerie, un peu comme une imagerie d'Épinal. On le voit par exemple dans le Don Quichotte, qui est le numéro 37 du catalogue, où l'on voit un Don Quichotte extravagant, entouré, suivi de personnages portant des drapeaux rouges. Pourquoi? Et puis le peintre lui-même en bas, et qui s'est représenté en train de peindre comme toujours un tableau avec des fleurs. Et puis là, il y a un autre tableau, je ne sais pas s'il vous a frappé, moi il m'a beaucoup frappé, c'est un Christ en croix. Un Christ en croix qui ne porte pas son nom, puisque ça s'appelle « Devant le tableau ». Alors ça, est-ce que vous avez une idée, vous, Pierre Descargues, de la raison pour laquelle Chagall a représenté un tableau dans un tableau? Moi, je me pose la question.
Ah, ça lui arrive souvent, François Le Tingal. La preuve, vous parliez à l'instant du tableau Don Quichotte. On voit un peintre, et qu'est-ce que fait le peintre? C'est presque exactement l'image que Courbet a donnée dans son atelier. C'est un peu la même situation, et on sait d'ailleurs que, grâce au livre de Pierre Schneider, Dialogue du Louvre, on sait que Chagall a beaucoup d'intérêt pour Courbet. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau dont vous parlez? Le peintre est assis, il tient sa palette à la main. À côté de lui, il y a une femme nue, exactement comme dans chez Courbet. De l'autre côté, une femme qui tient un bouquet. Et qu'est-ce qu'il peint? Eh bien, il peint quelque chose qui est bleu et blanc, quelque chose qui s'envole, et qui est le tableau du peintre à l'intérieur de cette grande image où on voit un cavalier, le Don Quichotte en question dont vous parliez, est suivi par une foule portant des drapeaux rouges. Qu'est-ce que ça peut signifier? Eh bien, Chagall, depuis que nous l'écoutons, depuis le début de après-midi, nous savons que Chagall dit que les peintures veulent ce qu'elles veulent dire et rien d'autre, et que c'est pas si simple. Mais je pense que vous avez vu deux tableaux qui me paraissent révélateurs. Tout à l'heure, quand on écoutait un extrait de ce qu'il avait déclaré à Jacques Chancel, Chagall racontait qu'il avait deux pays. Deux pays, Vitebsk et Paris. Eh bien, il y a un tableau qui s'appelle Souvenir de Paris, c'est, si je ne me trompe, le numéro 58, vous ne pouvez pas en être très loin. Le tableau de Souvenir de Paris, je tourne les pages de mon catalogue, je vais le trouver. C'est au fond, c'est assez simple, il s'agit de danseuses, ça c'est le souvenir de sa vie à Paris, de danseuses qui sont devant un bâtiment qui doit être l'opéra. À côté, il y a la Tour Eiffel, puis il y a le pont, la Seine avec Notre-Dame, et puis il y a une évocation du groupe de Carpeaux, la danse, puis il y a une image de l'obélisque de la Concorde, et puis il y a devant un couple d'amoureux. En définitive, dans ce tableau, Chagall raconte sa vie. Et si, ça c'est son côté parisien, puisqu'il a dit tout à l'heure qu'il y avait dans Paris l'endroit de sa seconde naissance. Et puis il y en a un autre, le numéro 48, qui est le Fils prodigue, qui est un tableau très intéressant. Vous savez, à ce moment, le tableau est daté, je crois, de 74-75. C'est une époque où Chagall est enfin retourné en Russie, a enfin repris contact avec sa ville, son pays, sa ville natale. Je ne crois pas qu'il soit allé à Vitebsk, mais la signification de ce retour du fils prodigue est tout à fait évidente. C'est quelqu'un qui est peut-être Chagall et qui va retrouver qui? Eh bien, qui va retrouver son père ou son grand-père ou son oncle, tel qu'il les a peints quand il était à Vitebsk. C'est un homme barbu avec la casquette du Moujik et des grosses chaussures. Et cet homme recueille le fils prodigue qui arrive et le prend dans ses bras, dans un geste que Rembrandt a déjà peint d'une façon très évidente. Et dans le fond, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a toutes les maisons de Vitebsk. Si bien que dans cette... Et bien sûr, j'oubliais qu'à gauche, il y a un magnifique soleil, et puis il y a un coq qui arrive, et que, évidemment, en bas à droite, conseillé par un bouc. Il y a le peintre près de son tableau. Et alors, entre ces deux tableaux, on a peut-être, si vous le voulez, ça m'a beaucoup frappé ce matin quand je les ai vus, une sorte de formulation du trajet de Chagall. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie ? Il a regardé autour de lui et toutes ces images, toutes ces maisons, tous ces personnages, aussi bien le groupe de la danse devant l'opéra que le marchand de bestiaux de Vitebsk, tous ces personnages sont entrés. Il y a l'obélisque, il y a l'isba, il y a les petites rues enneigées, il y a le grand dégagement de la Seine avec les ponts, tout ça se met ensemble. Comment oui. Ça se met ensemble ? Eh ben, on ne sait pas très bien, mais c'est une sorte de miracle de la peinture, mais ça va ensemble.
On va peut-être l'apprendre en ce qui concerne ce tableau dit devant le tableau, le numéro 16, il y a un jeune homme à côté de moi qui prenait force note. Il vous frappe ce tableau, ce Christ en croix
Oui, tout ce que Chagall m'a toujours frappé, mais il me semble que dans ce tableau, il y a un élément assez important, c'est que au-dessus du Christ, on trouve au lieu des initiales INRI, c'est-à-dire Jésus, Christ, roi d'Israël, je trouve le mot Chagall écrit en caractère hébraïque, en lettres d'or, c'est-à-dire en jaune, ce qui je trouve aussi dans le candélabre qui se trouve derrière la croix. C'est aussi ce que j'ai vu, c'est que dans plusieurs tableaux de cette série, Chagall a l'habitude de placer des mots, des paroles écrites en caractère hébraïque. Et étant donné que dans ce tableau on trouve son propre nom au lieu du nom de Jésus-Christ, alors ça me semble assez intéressant de voir l'attachement de Chagall au judaïsme, peut-être dans ces 10 dernières années spécialement.
Mais ce tableau, pour un Chagall, est un tableau particulièrement sombre, parce qu'en dehors du peintre qui a l'air de s'être représenté en âne, j'ai l'impression à gauche, vous voyez une palette et puis une espèce d'animal. Un animal a l'air de tenir une palette dans la main. Le fond du tableau, ce Christ, est extrêmement noir, sauf la main gauche qu'il a sur le cœur et qui fait comme une tache blanche éclatante qui n'a d'égal que la robe de l'ange qui vole très bas, en fin de compte, l'ange à droite du tableau, au lieu de survoler comme dans les tableaux triomphalistes religieux, vous savez, les anges au-dessus.
Oui, oui. Bon, je ne sais pas quelle pourrait être l'attitude de Chagall en faisant c'est-à-dire les peintres représentés par un. Et ça, je n'ai pas encore pu voir plus que... Parce que ce qui m'a frappé, c'était plutôt les mots écrits en hébreu, c'est-à-dire ce que j'ai cherché dans ce tableau-ci.
Bon, et bien, je vous remercie. D'autres tableaux, comme on a pu le voir, toujours très, très colorés, très gais, jalonnent cette exposition. Et je retrouve là le jeune homme qui, tout à l'heure, m'avait dit n'avoir pas encore vu assez de tableaux. Il en a vu 4 ou 5. C'est simplement une impression générale, mais pas une critique détaillée. Oui, votre impression alors, là, vous êtes au milieu de la salle. C'est séduisant, vous trouvez cela agressif dans des couleurs, parfois, comme celui de droite, là-bas, où il y a un bleu, un jaune, un vert, qui sont dans un tableau presque coupé en 4, ou bien vous trouvez que c'est un grand charme poétique ?
Je trouve cela très, très poétique, je suis très frappé par l'aspect mystique qui se dégage de la peinture de Chagall.
Même quand le sujet n'est pas forcément mystique, il s'agit d'un bouquet de fleurs ou des amoureux, vous trouvez que c'est profondément empreint de mysticisme.
Je pense que c'est inhérent à la personnalité de Chagall et que c'est quelque chose qui se dégage d'une manière générale de son œuvre.
Donc vous le classez, enfin classez, on ne classe jamais, il ne faut pas d'ailleurs, mais enfin, grande tendance, le mysticisme imprègne Chagall à vos yeux.
Je pense, et je pense aussi que c'est lié à sa nationalité russe. Les Russes sont un peuple très tourné vers le mysticisme et on ressent ça très fortement en face de la peinture de Chagall.
Nous continuons dans cette salle. J'aperçois là, et je vais d'ailleurs l'interrompre au cours d'une conversation, mais lorsqu'il aura pris une note, notre ami Schur, qui est un spécialiste lui aussi des tableaux et des galeries. Alors, Gérald Schur, cette exposition Chagall tant attendue, on voit beaucoup de Chagall, mais tout de même, celle-là...
Oui. Je dois dire qu'elle me déçoit un peu.
Pourquoi ?
Parce que Chagall est un jeune peintre de 90 ans, mais qui est toujours un peintre naïf, mais qui n'a conservé de la naïveté qu'une certaine habileté. C'est ennuyeux pour un naïf.
Alors vous préférez les œuvres plus anciennes ?
Ah oui, il fait la même toile depuis 70 ans.
Vous savez qu'on dit aussi que les romanciers écrivent toujours le même roman.
C'est vrai,
leur vie.
Tous les peintres font leur autoportrait avec Cocteau. Mais lui particulièrement, on retrouve perpétuellement ces mêmes thèmes, le violoniste dans les airs, la femme avec la tête renversée. C'est joli, c'est agréable, mais c'est toujours la même chose. J'avais déjà eu cette impression au Grand Palais il y a quelques années.
Alors pour vous, la grande époque Chagall, c'est quand ?
1920.
Encore avant.
Peut-être même encore avant. 1910-1920, la période de Vitebsk, quand il était en Russie. Et depuis, il n'a fait que se répéter, à mon avis.
Et vous, monsieur, c'est également votre avis ?
Ne demandez pas, c'est tellement mauvais qu'il n'a rien à dire.
Ah.
C'est franchement mauvais, quoi. Regardez-vous-même.
Ah, mais moi, je ne fais pas la critique, je fais le
c'est
reportage.
C'est pas la critique, c'est pas la critique. C'est tellement mauvais qu'il n'y a rien à discuter, là-dedans.
Vous êtes venu quand même ?
Je suis venu, je viens toujours.
Vous voyez, les avis sont partagés entre...
C'est pas partagé, si on enlève les prix, si on dit demain ça coûte 50 centimes, on mettra ça dans l'ordure, tout simplement, on ne dira pas c'est de là. Voilà, c'est tout. C'est commercialement monté. Là, c'est tout, vous comprenez ?
Ah ben, pas au Louvre.
Le Louvre aussi, le Louvre va avec l'argent, qu'est-ce que vous voulez ?
Voilà un problème, Pierre, vous pouvez entendre, qui dépasse le simple compte-rendu d'une exposition.
Non, mais François Tagage, je crois qu'il est très intéressant d'avoir ces réactions à chaud comme ça.
Oui.
Et moi, je pense que les gens qui sont fâchés par cette exposition, ils sont en définitive aussi intéressants que ceux qui la reçoivent favorablement, car c'est important qu'une peinture ne fasse pas plaisir à tout le monde.
Bien
c'est
sûr,
important qu'une œuvre soit quelquefois reçue comme une agression. Et moi, je pense à un tableau dont on parlait tout à l'heure, particulièrement c'était Charles Sorlier qui en avait dit un mot, et que vous avez peut-être devant vous, c'est un tableau que je trouve admirable, qui est la chute d'Icare. Là, les reproches qui ont été faits à Chagall à l'instant, ils sont plus valables, car c'est un tableau qui est d'une diversité et d'un renouvellement tout à fait remarquable.
Oui, j'en parlais dès le début de l'émission, d'ailleurs, de ce tableau, qui est l'inverse, si je puis dire, dans l'esprit de celui de Bruegel, c'est-à-dire au lieu de l'indifférence, la participation, d'ailleurs, de toute cette foule qui regarde Icare tomber.
Et ça qui est important, c'est le village qui est pas tellement indifférent, mais qui est plutôt curieux, comme ça.
Curieux, c'est cela.
Qui tient, c'est intéressant ce qui se passe, mais qui n'est pas vraiment dérangé. Mais c'est là où on peut parler, si on a un peu le temps, François Le Targa, on peut parler d'un des traits particuliers de Chagall. C'est le suivant, c'est que Chagall est peut-être le seul peintre contemporain qui sache, ou qui s'intéresse plutôt, à la représentation de la foule. Je ne vois pas ailleurs, c'est pas chez Picasso, c'est pas chez Matisse, c'est pas chez Bonnard, bien sûr c'est pas chez Braque, ni chez les surréalistes, quelqu'un qui représente dans des tableaux des groupes. Et là, il faudrait les compter, les gens qui sont dans la chute d'Icare en train de lever la tête
ou
bien de faire autre chose. Il y en a peut-être une trentaine ou une quarantaine. Ils sont passionnants, ils sont tous divers. Alors vous avez par exemple des gens qui lèvent les bras, d'autres qui sont à côté de leur âne, d'autres qui sont grimpés sur le toit, et puis très curieusement, pourquoi ? Personne ne répondra jamais, seul Chagall ne le dirait pas d'ailleurs. Il y a une femme nue qui est étendue sur le
toit
d'une isba. Bon, par ailleurs, il y a une femme qui porte un enfant, c'est un thème qu'on connaît toujours. Je ne comprends pas très bien pourquoi on reproche à Chagall, pourquoi à l'instant notre ami Chu reprochait à Chagall de reprendre constamment ces thèmes. C'est évident que quelqu'un a toujours repris ces thèmes. C'est une critique qu'on pourrait faire aussi à Picasso, et pourtant, Dieu sait s'il s'est renouvelé. Picasso a repris toujours les mêmes thèmes, des maternités, des femmes assis dans des fauteuils, on voit ça depuis ses débuts jusqu'à la fin de sa peinture, ce n'est absolument pas différent. Donc, je crois que ce tableau est une réplique assez solide, assez forte, aux critiques extrêmement violentes qu'on vient d'entendre, et puis peut-être réfléchir sur le fait, en se rappelant sur le fait que Chagall est capable de représenter la foule, en se rappelant ce qu'il a dit tout à l'heure, je crois que c'était à propos des vitraux de Jérusalem. Il a dit, eh bien maintenant que les gens entrent, les gens qui ne connaissent pas la peinture. Eh bien les gens qui ne connaissent pas la peinture, les gens de Vitebsk et d'ailleurs, eh bien ils sont dans la peinture de Chagall et ils s'y trouvent très bien. Ne trouvez-vous pas ?
Ah oui, moi personnellement je suis de votre avis. Ce qui me surprend, Pierre, c'est qu'actuellement il n'y a pas encore grand monde de nos confrères d'arriver. Je crois qu'ils sont un peu en retard. C'est un petit peu ennuyeux parce que... On ne peut pas avoir des avis très divers, justement, ce qui aurait été bon de confronter.
Ah, j'entends bien. Mais écoutez, on a déjà, à ce qu'on a entendu, quelque chose de très opposé. D'une part, l'enthousiasme sans faille de Georges Charansol, qui connaît Chagall depuis 1923, ce qui fait quand même 54 ans, et qui l'a suivi comme ça à travers toute son évolution, qui, quoi qu'en dise Gérald Schur, a été assez évidente. Et puis l'opposition de ce peintre, à l'instant, je crois qu'on vient d'entendre, qui dit que tout ça est bon à mettre à la poubelle. C'est assez évident.
Je vois ici un monsieur, je vais essayer de l'interviewer s'il me parle, je pense, français. Ce monsieur est japonais, je pense. Je vous demande pardon, monsieur, vous parlez français? Oui, bien sûr. Votre avis sur Chagall, cette exposition que vous visitez en ce moment?
Mais je n'ai pas encore tout vu.
Non, mais ce que vous avez vu?
Oui. Récemment, j'ai écrit un petit article sur Chagall. Enfin, c'est un artiste inspiré par l'Ancien Testament, bien entendu, qu'on ne connaît pas très très bien au Japon. C'est pour cela que j'ai abordé un tout petit peu ce thème, si vous voulez. Oui. Enfin, et puis ce qui m'a étonné beaucoup dans cette exposition, c'est sa jeunesse, vitalité, qui ne change pas du tout depuis de ses débuts, si vous voulez.
Oui. Mais pour vous, japonais, est-ce que c'est une peinture qui vous parle, ou bien est-ce que c'est difficile d'abord, vu la culture que vous avez d'une peinture tout de même bien différente?
C'est cela, comme vous connaissez, les contextes des civilisations sont tout à fait différents, comme vous connaissez bien. Mais donc, on aime beaucoup pourtant les œuvres de Chagall au Japon, mais plutôt d'un point de vue, si vous voulez, tout à fait esthétique, mais sans aborder très très profondément les motifs, si vous voulez. Oui. Enfin, tout de même, la culture du chrétienisme est un autre monde, dans mon pays, plus ou moins, si vous voulez.
Oui.
Oui.
Mais c'est une peinture qui est tout de même sensible, généreuse. Émotive.
C'est ça. La grâce dans ses œuvres touche beaucoup, même des Japonais, bien entendu. Grâce, générosité, si vous voulez. Oui.
Oui, parce qu'il n'est pas nécessaire de connaître la Bible par cœur et
non,
tous les détails pour être sensible, pour recevoir comme ça, ce choc coloré.
C'est ça. Au Japon, on a déjà exposé deux grandes expositions de Chagall récemment, l'année passée, je crois. Enfin, tout de même, au Japon, on a reçu un public énorme, si vous voulez, à point de vue de nombre. On a bavardé beaucoup, on a apprécié beaucoup, bien entendu. Mais c'est toujours la question, pour moi, c'est toujours la question de la civilisation, du chrétianisme, si vous voulez. Oui, c'est un peu difficile pour le public japonais, c'est évident.
Oui, oui, c'est un monde différent.
C'est ça, oui.
Je vous remercie. Bien, vous voyez, Pierre Descartes, qu'en Extrême-Orient, Chagall n'est tout de même pas méconnu, loin de là. Et on parlait de ce monde, de ces deux mondes différents, bien sûr, de la civilisation extrême-orientale et de la civilisation biblique, enfin judaïque. Je crois qu'en effet, il est difficile de leur trouver des points communs.
Oui, mais ce qui me paraît important, François Altaga, c'est ce que vient de dire ce critique japonais, cet amateur japonais, c'est la chose suivante, et qui me rassure un peu, car moi, quand je regardais, quand je regarde des œuvres d'art extrême-oriental, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais comprendre de ça? Tout va m'échapper, je ne connais pas à fond leurs principes religieux, et je vais donc passer à côté de l'essentiel. À l'instant, le japonais qui n'a peut-être pas de culture biblique, comme vous le lui disiez d'ailleurs, lui ne se trouve pas gêné. Et il pense qu'il y a une communication possible, une interprétation possible, même pour qu'il ne sait pas par cœur Job ou les autres textes, ou Ézéchiel. Il entre facilement là-dedans. Et ça me rassure pour mon côté. Et puis ça me confirme surtout une chose, c'est que l'art de Chagall est peut-être le seul art, spiritualiste, spirituel, pour ne pas dire mystique, car il a bien précisé, dans l'enregistrement que vous avez choisi tout à l'heure, François Altaga, il a bien précisé qu'il y avait deux domaines, le sacré et l'autre. Donc, le seul peintre spirituel ou spiritualiste contemporain, c'est Chagall. Et Chagall, comme on l'a dit tout à l'heure, il est capable de faire des décors pour une synagogue, il est capable, enfin, des vitraux, pardon, pour une synagogue, des vitraux pour une cathédrale, en l'occurrence Reims, un décor pour un parlement, un décor pour un auditorium à Tokyo, justement, sans doute un décor que ce japonais a dû pouvoir connaître. Et qu'est-ce qu'il a vendu à la totalité du monde? Qu'est-ce qu'il a proposé à la totalité du monde? Il a proposé une vision qu'il est peut-être le seul à défendre, celle d'une communication possible entre la terre et le ciel, et cette spiritualité de Chagall qui se répand tout naturellement par-delà, avec une facilité un peu déconcertante, mais qu'on comprend mieux après la déclaration de votre interlocuteur japonais, car c'est évident qu'il y a là une transparence, une possibilité de communication avec l'autre monde. C'est une peinture métaphysique, en quelque sorte, dans sa réalité, et c'est valable pour tout le monde. Quand on s'interrogeait tout à l'heure sur le rôle des Chagall dans les communautés les plus diverses, aussi bien chrétiennes que juives ou que japonaises ou que américaines, il a fait des décors importants dans les théâtres et dans les bâtiments aux États-Unis, tout ça passe très bien. Alors, il faut s'interroger pour savoir ce qu'on va chercher chez Chagall. Qu'est-ce qu'on va chercher? Quelque chose qu'on n'a peut-être pas ailleurs, un monde où l'eau, le ciel, les choses communiquent, ou ce poisson dans l'air qui a l'air de déranger tout le monde depuis que Chagall fait de la peinture. Après tout, soyons un peu sérieux, le poisson que Chagall met dans le ciel, eh bien, c'est les signes du zodiaque, bien entendu. Pourquoi tout d'un coup, quand Chagall la présente, on est surpris? Et quand on regarde un peu les animaux, non pas dans leur réalité, comme ça, d'animal dans son étable ou son écurie, mais dans sa signification graphique et symbolique, aucun problème. Un bœuf et un âne, eh bien, nous connaissons ça très très bien. On n'a pas ces difficultés avec eux que la plupart des gens semblent avoir. Quand on est en France devant la cathédrale de Laon, qu'est-ce qu'on voit au sommet de la cathédrale de Laon? Eh bien, des bœufs qui sont en train de regarder. Et puis, on a complètement perdu la signification des bêtes, par exemple. Quand vous regardez, quand on regarde l'Apocalypse, eh bien, chaque grand personnage de l'Église est accompagné d'un animal. Il y a le bœuf, il y a l'aigle, hein, il y a le taureau, il y a l'aigle. Bien sûr, tout ça est présent. Et aujourd'hui, pour nous, s'il y a un aigle près de quelqu'un, bah, c'est quelqu'un avec un oiseau. Mais pour les gens autrefois, c'était pas ça du tout. Et c'est ce que paraît important dans ce que Chagall rappelle, c'est qu'il y a toute la signification symbolique des êtres, et qu'ils soient animaux, humains, ou comme il aime beaucoup la botanique, des êtres vivants en tant que fleurs ou en tant que plantes, ou des êtres qui sont des êtres de l'eau, ou bien l'eau elle-même, ou bien la terre elle-même, ou bien la demeure elle-même, ben Chagall représente ça admirablement. Et il y a un tableau auquel, quand il est arrivé à Paris, Chagall a dit qu'il avait apporté avec lui la couleur des pommes de terre de Van Gogh. Et bien, il y a un tableau de Van Gogh que Chagall doit peut-être aimer, j'en sais rien, peut-être qu'il faudrait lui demander, mais qui me paraît important. C'est un tableau qu'il a peint à Nuenen quand il était dans sa Hollande natale. Et bon, le peintre est dehors, il voit une maison. La maison est grande, une fenêtre, et ses volets sont clos, sauf une fenêtre qui est vitrée. Et par cette fenêtre vitrée, on voit une lumière et une femme qui tient vaguement cette lumière. Et ben, cette image profonde de la maison et de sa signification à la fois symbolique et pourquoi pas psychanalytique, il faudra peut-être aussi aller voir de ce côté-là, et bien on la retrouve chez Chagall dans certains tableaux où la maison est là, elle est, vous savez, cette maison dont les femmes ouvrent les fenêtres le matin et referment les volets le soir, ben cette maison, elle a plus de fenêtres, elle a des yeux, et ses yeux sont des yeux ouverts ou bien des yeux clos, et cette maison vit à côté de nous. C'est tout ça que nous rend Chagall, et c'est peut-être tout ça dont on est tellement privé que ça fait l'unanimité aussi bien des Japonais que des Américains, des Israéliens ou de Dieu sait qui.
Justement, Pierre, ne croyez-vous pas que peut-être nous sommes victimes de deux choses, du cartésianisme et du jansénisme, qui ont un peu coupé ce monde cosmique, l'idée un peu cosmique du monde à travers la peinture? Chagall renouerait en somme avec la grande tradition d'avant cette scission, non?
C'est sûrement pour ça. De toute façon, Chagall, c'est quand même quelque chose de frais. Je sais bien que certaines personnes peuvent penser que cette exposition n'est pas aussi, peut-être pas aussi surprenante que si on découvrait Chagall, comme on a pu le découvrir à Paris, quand Apollinaire l'a découvert, quand Sandras l'a découvert, avec une sorte de fascination. Et puis après, Chagall, eh bien, Chagall, il a évité le surréalisme, il n'a pas été récupéré, il s'est comporté comme Quirico, il est passé à côté, et il a fait toute sa carrière tranquillement, avec quelques idées, pas tellement, et en définitive, il a pu construire dessus une œuvre immense. François Taga, je crois qu'il va falloir nous séparer, sauf s'il y avait encore quelqu'un dans ce vernissage qui avait de dire quelque chose, je crois que c'est non.
Non, malheureusement, eh bien, alors, Pierre, là, je n'ai personne.
Eh bien, c'est parfait. En tout cas, merci de nous avoir apporté ce contact en direct avec le vernissage de presse de l'exposition Marc Chagall. Je rappelle que à partir d'aujourd'hui, pour les invités, ce matin, le président de la République, en ce moment même, pour la presse, et ce soir, pour le grand public, pour les invités. Chagall présente au Louvre ses peintures récentes, 1967-1977, et que le grand public sera admis à partir de mercredi, puisque vous savez que le mardi, c'est jour de fermeture dans les musées nationaux. Donc, à partir de mercredi, je pense qu'à l'entrée, il y aura cette jeune fille que Sylvie Andreu avait enregistrée tout à l'heure, qui avait vu passer les tableaux, qui avait vu monter les affiches dans la cour du Louvre, et qui se promettait de venir le plus tôt possible visiter l'exposition Chagall. Donc, c'est à cette demoiselle qui a de la curiosité pour Chagall, vieux peintre de 90 ans, une carrière qui commence peut-être. C'est à cette demoiselle que nous dédions, François Altarga, André Mathieu, Sylvie Andreu et moi-même, cette émission qui a été consacrée aujourd'hui à l'invité du lundi, Marc Chagall.
C'était les après-midi de France Culture, l'invité du lundi Marc Chagall, une émission diffusée la première fois le 17 octobre 1977 sur France Culture.